La discrimination, comment est-ce qu'on la mesure? Et pour dire les choses plus crûment, on a eu à partir de 2007 ou 2008 en France des débats très vifs sur ce qu'on a appelé, l'expression n'était peut-être pas très heureuse, des statistiques ethniques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce débat et sur cette question de la mesure des discriminations?
Alors, avant d'en venir au débat picrocolin franco-français sur les statistiques ethniques, qui n'est pas dénué d'intérêt mais qui n'est pas forcément l'objet le plus intéressant, il faut, à mon avis, distinguer plusieurs méthodes possibles de mesure de discrimination, qui peuvent d'ailleurs être employées de manière simultanée et qui devraient d'ailleurs l'être parce qu'elles sont largement complémentaires. La première, c'est une méthode qu'on pourrait dire économétrique. Donc là, ce sont les économistes qui la mobilisent et elle procède de la manière suivante. Vous constatez un écart inexpliqué de situation. Vous tentez d'expliquer cet écart, vous essayez de mesurer la part de cet écart qui résulterait d'une éventuelle discrimination, et pour ce faire, vous commencez par neutraliser l'impact de toutes les variables potentiellement déterminantes et non discriminatoires. Par exemple, le niveau d'éducation, le lieu géographique, etc., etc. Et une fois que vous êtes arrivé au bout de ce processus d'épuisement des effets des variables alternatives, vous considérez, par construction, que le résidu, l'écart résiduel inexpliqué par les variables que vous avez prises en compte et enregistrées dans votre modèle, eh ben c'est de la discrimination. Bon, ça c'est une façon de procéder. La limite, c'est que vous n'êtes évidemment jamais certain d'avoir été au bout de la liste des variables explicatives non discriminatoires. Vous pouvez aller plus ou moins loin, mais vous ne serez jamais certain d'avoir été jusqu'au bout. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle en franglais le testing. Il s'agit donc de construire des candidatures non pas strictement identiques, mais strictement équivalentes sur tous les plans, sauf en ce qui concerne la caractéristique dont vous voulez tester l'impact, sexe, race, entre guillemets, etc., que vous allez donc envoyer à des employeurs et vous allez attribuer à la discrimination tout écart observé. Ça marche bien. Ça marche bien à peu près partout. C'est très largement employé aujourd'hui en France depuis une dizaine d'années. Ça a émergé au Royaume-Uni dans les années 70. Donc c'est assez, une méthodologie assez éprouvée qui produit pas mal de choses non triviales. Je vous donne deux exemples. Aux États-Unis, une étude hyper célèbre est celle de la sociologue de Harvard, Deva Pager, qui a montré que deux candidats fictifs à l'emploi, le fait d'avoir un casier judiciaire était un handicap absolument énorme et que l'ampleur de cette de ce handicap dépendait du facteur racial. En gros, un candidat blanc qui arrive avec un casier judiciaire, il va y avoir une fraction des employeurs qui vont lui donner une seconde chance. Un candidat noir qui arrive avec un casier judiciaire, personne jamais ne va le prendre. Ça a été montré par le testing. Côté français, David Lightin, Marianne Valfort et Clara Dida ont fait une étude intéressante sur la discrimination à l'embauche dont sont victimes les musulmans. Et ils ont montré que sur la base de la consonance plus ou moins chrétienne ou musulmane de noms et de prénoms de candidats fictifs, on avait des écarts dans les taux de convocation à l'entretien d'embauche qui étaient extrêmement significatifs.
Donc si le dossier qui est présenté artificiellement à un employeur, il est signé Jean-Pierre Dupont, et le même dossier est signé Mohamed quelque chose, Jean-Pierre Dupont a beaucoup plus de chances statistiquement d'être embauché.
Oui.
Ou en tout cas de passer les premiers tests.
Oui. Après, passer les premiers tests, c'est très important parce que on peut toujours dire qu'il peut y avoir des discriminations dans la phase ultérieure. Mais il faut bien voir que dans la phase ultérieure, l'employeur peut se dire que finalement, si la personne qui l'auditionne ne présente pas les stéréotypes négatifs qu'il a à l'esprit sur son groupe d'appartenance, son intérêt, c'est de le prendre. Son intérêt, c'est pas de continuer à subir un coût en termes de temps et d'argent consistant à recruter quelqu'un d'autre. Donc, passer la première étape, c'est très important. La limite du testing, si je peux l'indiquer, c'est que le testing ne nous dit rien sur les déterminants de la discrimination observée. Le testing ne nous indique pas notamment s'il s'agit d'une discrimination raciste au sens strict du terme, comme je l'évoquais précédemment, ou d'une discrimination de nature probabiliste, où l'employeur simplement évite des candidats parce qu'il pense qu'il y a une corrélation entre le facteur racial, par exemple, et telle ou telle caractéristique négative par rapport à ses propres objectifs légitimes. Et pour le savoir, là, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire des entretiens avec des employeurs et de leur demander pourquoi ils font ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ça donne souvent des résultats, là aussi, intéressants et non triviaux. William Julius Wilson l'a fait abondamment aux États-Unis et ce qu'il observe d'abord, c'est que les employeurs sont tout à fait disposés à avouer qu'ils discriminent, beaucoup plus qu'on ne pourrait le supposer, et ils indiquent assez clairement pourquoi ils le font. Ils le font pour des raisons variées, mais qui comprennent une aversion au risque. L'idée qu'il y a des candidats qui sont des profils plus risqués que d'autres et que c'est ça qui détermine la discrimination observée. Troisième méthode, c'est la dernière, c'est le fait d'aller demander aux gens s'ils se sentent discriminés. C'est ce qui a été fait en partie en France avec l'enquête trajectoire et origine, de manière beaucoup plus sophistiquée que ça n'avait été fait dans le passé. Et là, la limite, c'est évidemment que la fiabilité de ces déclarations est quand même plus ou moins douteuse. Souvent, la discrimination va être sous-estimée et les individus ne sont pas conscients d'avoir été discriminés alors qu'ils l'ont été. Il peut aussi arriver qu'elle soit surestimée et que des individus se sentent discriminés alors que rien ne permet de l'établir. Et il peut y avoir un hiatus important entre le sentiment de discrimination et la discrimination telle qu'elle pourra être objectivement identifiée. Donc mon but n'est pas ici de plaider pour l'une de ces méthodes plutôt que l'autre, mais de défendre au contraire l'idée qu'elle devrait être utilisée de manière complémentaire. Après, ce qui est vrai, c'est que pour lutter contre les discriminations indirectes, il vous faut des données statistiques. Parce qu'une discrimination indirecte, c'est quoi ? C'est une pratique apparemment neutre qui produit un effet négatif disproportionné sur les membres d'un groupe. Pour pouvoir établir qu'il y a un effet négatif disproportionné, il faut pouvoir comparer des données relatives aux différents groupes qui subissent l'effet de la pratique. Si vous n'avez pas ces données, par définition, vous ne pourrez pas établir l'existence d'une discrimination indirecte. Or, la discrimination indirecte est interdite en droit français et dans le droit de toute l'Union européenne. Donc ce qui est particulier au cas français, c'est qu'on a une prohibition de la discrimination indirecte qui est ineffective du fait de l'absence de données ethno-raciales, même si elle peut être effective dans les cas où on a des données comme sur l'âge ou sur le sexe. Il me semble qu'on peut dire que la discrimination directe, c'est une différence de traitement. Le traitement est différencié et préjudiciable à au moins un individu identifié comme appartenant à un groupe, par exemple, racial. Et cette différence de traitement préjudiciable à au moins un individu identifié comme, etc., il faut bien voir qu'elle peut être intentionnelle ou non. Il n'y a pas de superposition entre discrimination directe et discrimination intentionnelle. Vous pouvez bien sûr discriminer de manière directe et intentionnelle. Si je suis un employeur et que je mets sur la porte de mon bureau une affiche disant « je ne veux pas être candidat juif », c'est de la discrimination directe, parce qu'un candidat juif, il voit l'affiche, il n'entrera pas. Un candidat non-juif, il entrera. Donc il est traité différemment par le fait que j'ai collé l'affiche. Et puis c'est intentionnel, parce que si l'affiche est là, c'est parce que c'est moi qui ai voulu la mettre. Mais vous avez des cas où la discrimination peut être directe et inconsciente. Et on a maintenant quasiment un demi-siècle d'études de psychologie sociale assez convergentes, assez solides, qui tendent à montrer que les phénomènes de discrimination directe et inconsciente sont tout à fait répandus. Et ce qui se passe généralement, c'est que les processus préalables à la prise de décision, les processus cognitifs, c'est-à-dire la remémoration d'une information, l'inférence, l'attribution causale, sont déterminés par des stéréotypes inconscients. Bon.
Donc, dans votre exemple, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si quelqu'un, s'il n'y a pas d'affiche devant la porte pour dire « je ne veux pas de juifs pour tel emploi », qu'est-ce que sera une discrimination directe et inconsciente ?
Ça peut consister, dans un entretien d'embauche, pour l'employeur à faire montre d'un malaise qui lui-même produit chez le candidat une performance inférieure à celle qu'elle aurait pu être dans un contexte où l'employeur n'aurait pas donné des signes de malaise. Alors, signe de malaise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire positionner la chaise un petit peu plus loin du candidat, ça veut dire avoir moins de contact oculaire avec lui. Et on a pu montrer de manière scientifiquement assez solide qu'un certain nombre de gens faisaient ça, n'avaient pas conscience de le faire et que ça avait un impact sur la décision qu'ils prennent. Et il y a d'autres exemples du même type. Donc ça, c'est de la discrimination directe, mais inconsciente. Et après, la discrimination indirecte, c'est quoi ? C'est pas une différence de traitement, c'est une différence d'impact. Donc la pratique, elle est neutre, elle traite tout le monde de la même façon, mais elle produit un effet spécifiquement négatif sur les membres d'un groupe identifié à raison d'un critère protégé. Je vous donne un exemple très simple, qui est l'exemple états-unien par lequel la notion est, disons, a émergé dans le droit public, un test. Tel que vous avez 60% des candidats blancs qui le réussissent et 20% des candidats noirs qui le réussissent, de par le fait que les candidats noirs ont été dans des établissements scolaires de qualité sensiblement inférieure du fait de la ségrégation précédemment en vigueur. Et bien ça, la Cour suprême a considéré en 1971 que si le test n'était pas strictement indispensable à l'accomplissement d'un objectif légitime de l'entreprise, l'effet inégalitaire qu'il produisait suffisait à en faire une discrimination indirecte. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a toujours deux conditions qui doivent être couplées l'une à l'autre. Il faut qu'il y ait un impact inégalitaire de la pratique formellement neutre et il faut que cette pratique ne soit pas strictement indispensable. Si la première condition est réunie mais pas la deuxième, vous n'aurez pas de discrimination indirecte. Qui va décider si le test est strictement indispensable ou pas ? Le juge.